Nous allons prier pour que le Seigneur nous bénisse cette parole ce matin, qu'elle nous instruise et qu'elle nous fasse encore avancer un peu plus loin. Seigneur notre Dieu, nous te demandons que ta parole soit vraiment une lampe à nos pieds, lumière sur notre sentier, Seigneur notre Dieu, que chacun d'entre nous puisse recevoir de ta part ce que tu m'as confié. Je sois un instrument par lequel je puisse instruire mes frères et sœurs. Amen. Nous allons lire dans l'évangile de Jean au chapitre 6. C'est un texte que j'ai déjà médité avec vous, mais je vais le méditer différemment. Ce qui est extraordinaire avec la parole de Dieu, c'est que chaque fois qu'on la lit, on comprend toujours un peu plus et certaines choses vous frappent alors que ne vous ont pas frappé avant. Alors, je vais vous parler sur un miracle de Jésus. Je l'ai pris dans la version français courant, donc il y aura peut-être des petites différences avec votre version. Après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté du lac de Galilée, appelé aussi lac de Tibériade. Une grande foule le suivait parce que les gens voyaient les signes miraculeux qu'il faisait en guérissant les malades. Jésus monta sur une colline et s'assit là avec ses disciples. La Pâque, la fête des Juifs, était proche. Jésus regarda et vit qu'une grande foule venait à lui. Il demanda donc à Philippe, « Où pourrions-nous acheter du pain pour leur donner à manger tous ?» Il disait cela pour mettre Philippe à l'épreuve, car il savait déjà ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, « Même avec 200 pièces d'argent, nous n'aurions pas de quoi acheter assez de pain pour que chacun d'eux en reçoive un petit morceau. » Un autre de ses disciples, André, le frère de Simon, Pierre, lui dit, « Il y a ici un garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour un si grand nombre de personnes ?» Jésus dit alors, « Faites asseoir tout le monde. » Il y avait beaucoup d'herbes à cet endroit, et s'assirent donc, ils étaient environ 5000 hommes. Jésus prit les pains, et après avoir remercié Dieu, il les distribua à ceux qui étaient là. Il leur donna de même du poisson, autant qu'il en voulait. Quand ils eurent tous mangé à leur faim, Jésus dit à ses disciples, « Ramassez les morceaux qui restent, afin que rien ne soit perdu. » Ils les ramassèrent et remplirent 12 corbeilles avec les morceaux qui restaient, des 5 pains d'orge dont on avait mangé. Les gens, en voyant le signe miraculeux que Jésus avait fait, déclarèrent, « Cet homme est vraiment le prophète qui devait venir dans le monde. » Jésus se rendit compte qu'ils allaient venir l'enlever de force pour le faire roi. Il se retira donc de nouveau sur la colline tout seul. Nous nous retrouvons à nouveau dans un jour de grande affluence. Une foule considérable suit Jésus. Jésus les enseigne. Jésus leur annonce un message puissant, un message comme personne n'avait jamais parlé, et non seulement Jésus les enseignait avec puissance, mais Jésus accomplissait pas mal de miracles. Il nous a dit que des gens ont été guéris. Dans quel but cette foule suit-elle Jésus? Je crois que la rencontre avec le surnaturel les fascine beaucoup. Comme aujourd'hui, le monde ne cherche spécialement pas Dieu, mais le monde cherche le surnaturel. On aime le surnaturel en tout genre. Ici, bien sûr, ils suivaient ce qu'ils appelaient le grand prophète, Jésus, parce qu'il était le plus populaire à l'époque. Ce n'est pas pour cela que la majorité des gens qui étaient en train de le suivre le reconnaissaient comme vraiment le Fils de Dieu. Jésus faisait des démonstrations de puissance, en chassant des démons, en guérissant des malades, ressuscitant des morts, changeant de l'eau en vin. Et tout cela fascinait la foule, avide de sensationnel. Il nous est aussi raconté un peu plus loin, dans un autre évangile, dans l'évangile de Marc au chapitre 9, que les disciples avaient rencontré quelqu'un qui aussi chassait les démons au nom de Jésus. Et les disciples avaient empêché cet homme de continuer à faire cela, alors que Jésus ne s'y est pas opposé, ça ne l'a même pas choqué. Il a dit, s'ils sont pour nous, ces gens-là ne sont pas contre nous. Donc, on aimait, et on aime toujours, dans notre monde actuel, de voir des choses sensationnelles. Oui, notre monde est avide de surnaturel. Notre monde a soif de puissance. Et malheureusement, notre monde, comme dans le passé, se trompe d'adresse. Au lieu de venir à la véritable source du bonheur, eh bien, elle se tourne vers des citernes crevassées. L'ésotérisme a le vent en poupe. Le monde se dirige vers des voyants, des médiums. Il y a des émissions à la télé où on... Je ne sais pas si ça existe encore, mais il y avait des voyantes qui donnaient des avis à la radio, à la télévision. Tous les jours, sur certaines chaînes, les gens écoutent l'horoscope. C'est très important, l'horoscope, hein, parce que si la journée est mauvaise, aïe, 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 qu'est-ce qui va nous arriver, hein? Ceux qui ont annoncé du soleil sont peut-être trompés. Hein? Nous avions une voyante à l'époque qui s'appelait Madame Soleil. C'est plutôt Madame Pluie pour l'instant. Mais voyez-vous, les gens se tournent vers tout ce qui peut leur apporter un peu de surnaturel, un peu de puissance. Ils espèrent que toutes ces personnes peuvent intervenir dans leur vie pour que leur vie soit plus heureuse. Et malheureusement, comme je l'ai dit, ils se trompent d'adresse. Ils vont vers des citernes crevassées, vers des personnes que Dieu nous a interdit de consulter. Nous ne pouvons pas consulter ceux qui évoquent les morts, ceux qui évoquent les esprits, ceux qui sont en contact avec Satan, évidemment. Et je pense que l'Église devrait se poser les bonnes questions. Pourquoi le monde recherche ailleurs qu'en son sein cette puissance? Pourquoi le monde recherche-t-il, en dehors de l'Église, le sensationnel? C'est une question très grave, que l'Église devrait vraiment se réfléchir et qu'on ne devrait pas prendre à la légère. Si l'Église n'est plus capable de refléter la gloire de Dieu, le monde se dirigera vers d'autres sources. Vers d'autres sources qui ne sont pas les meilleures, qui sont des sources amères. L'Église, frères et sœurs, doit revenir à la parole de Dieu. Et cette parole doit être ce qui doit nous inspirer, ce qui doit nous enseigner. Combien de temps passons-nous devant la parole de Dieu? Je crois que nous tous, nous prenons du temps dans la lecture personnelle, dans la prière chez nous. Mais on peut se poser des questions. Combien de chrétiens ne ouvrent leur Bible que le dimanche? Et encore, comme on la projette, on ne l'ouvre même plus. Je crois que vous connaissez tous cette histoire de ce pasteur qui était allé, c'est une vraie histoire ou une blague, j'en sais rien, je n'ai pas été vérifié, qui a été visiter une dame, une de ses paroissiennes, et comme il avait oublié sa Bible, vous pouvez me donner votre Bible, que je puisse vous lire un verset, et en ouvrant sa Bible, il y a de l'argent qui tombe, et la femme qui dit, oh, il y a des mois que je cherchais après cet argent. Donc, il est fort probable que certains ouvrent très peu leur Bible, et je suis certain que beaucoup ont plusieurs Bibles dans leur bibliothèque, mais ils ne l'ouvrent pas. Cette foule s'approchant de Jésus a soif de bonheur, a des besoins physiques, il y avait beaucoup de malades, beaucoup avaient des problèmes spirituels, familiaux, et cette foule savait qu'en Jésus était la solution. Et Jésus apporter une œuvre de guérison dans le corps et les âmes de ces personnes qui étaient là. Et frères et sœurs, cette même foule que nous côtoyons chaque jour dans le bus, pas encore dans le tram, que nous côtoyons en vacances, que nous côtoyons dans les magasins, que nous côtoyons dans notre voisinage, cette foule que nous côtoyons est dans le même état que la foule qui suivait Jésus. Rempli de besoins, rempli de problèmes, cherchant des solutions. Vers qui dirigeons-nous cette foule? Avons-nous cette volonté de leur apporter le message de délivrance que la parole de Dieu. Avons-nous la volonté d'apporter le message de délivrance en Jésus-Christ? Et cette foule que nous côtoyons est affamée. La foule qui suivait Jésus était affamée physiquement, c'est vrai. Mais nous pouvons prendre ce texte avec en le transposant spirituellement. Cette foule était affamée, les provisions étaient épuisées. Parce que Jésus avait parlé tellement longtemps qu'ils étaient restés, que tout était épuisé. Et Jésus nous pose la même question qu'il a posée à Philippe, mais sur le plan spirituel. Où pourrions-nous acheter du pain pour leur donner à manger à tous? Que Jésus posait la question à Philippe. Et ce matin, il nous pose cette même question. Où pourrions-nous acheter du pain pour leur donner à manger à cette foule que tu côtoies chaque jour, mon frère, ma sœur, et que je côtoie? Il disait cela pour mettre Philippe à l'épreuve, nous est-il dit, car il savait déjà ce qu'il allait faire. Là, Jésus pose une colle à Philippe. Et les disciples étant embarrassés, il dit, on n'a pas prévu un staff de cuisiniers, comme on fait, nous, quand on fait un camp ou quoi, on prépare à l'avance, on achète autant de nourriture, autant de boissons pour que on puisse manquer de rien pendant la durée d'un camp. Mais là, à ce camp-là, ben, on n'avait pas prévu de staff de cuisinier et le lieu était éloigné de tout commerce. Et Philippe, de répondre un peu gêné, même si avec 200 pièces d'argent, nous n'aurions pas de quoi acheter assez de pain pour que chacun d'eux en reçoive un petit morceau. Seigneur, nous avons un peu d'argent, il est vrai. Nous savons que Judas était le trésorier, nous c'est Henri, rien à voir avec Judas. Mais nous n'avons pas assez d'argent pour nourrir toute cette foule, même si nous avons quelques finances, ce n'est pas possible d'avoir assez d'argent pour les nourrir tous. Et Jésus ce matin nous adresse cette même parole à chacun de nous individuellement, en regardant la foule qui nous entoure. Donnez du pain à manger à cette foule. Donnez du pain de vie, bien entendu. Comment vas-tu leur donner à manger? Et vous allez peut-être répondre, ou je vais répondre, Seigneur, je n'ai pas assez de puissance pour m'occuper des problèmes insolubles de notre génération. Je ne saurais pas. Seigneur, je ne connais pas assez ma Bible pour répondre aux questions embarrassantes que les inconvertis ont l'art de nous poser. Hein, par exemple, est-ce que Ève avait un nombril? Hein? Ah! Oui, ben ça, on m'a déjà posé cette question-là. Hein? Est-ce qu'elle avait un nombril, Ève? Bon, comme si c'était une question existentielle, mais on aime bien nous titiller, n'est-ce pas? Et bien sûr, on doit être honnête, on ne sait pas. On pourrait dire aussi, Seigneur, pas moi. Un tel est beaucoup plus capable que moi pour pouvoir parler. Seigneur, je suis trop humide, etc., etc. Toutes les réponses que nous pouvons apporter comme excuses, que nous allons développer auprès du Seigneur. Et nous laissons cette foule, ce monde affamé, malheureusement, se tourner vers d'autres sources de nourriture. Ils vont aller s'approvisionner ailleurs. N'est-ce pas là vraiment le problème de l'Église, ne sachant plus nourrir le monde? Parce que l'Église, disent-ils parfois, un message frelaté, une nourriture malsaine. Parce qu'elle mange à tous les râteliers, si je peux m'exprimer ainsi. Et la nourriture n'est plus cette vraie nourriture que le monde a besoin, que le monde recherche. Parce que le monde nous regarde, le monde a faim, il a soif de puissance. Et ce monde reste sur sa faim, c'est pour ça que ce monde va se nourrir ailleurs. Et nous continuons cette histoire, ensuite nous voyons l'intervention d'André. Il a remarqué quelque chose. On ne sait pas trop si je peux le dire, mais enfin, je vais toujours dire à Jésus. Autant le signaler, comme ça, au moins, j'aurais fait un petit quelque chose. Et peut-être que Jésus pourra éventuellement arranger quelque chose avec ce que je vais lui dire. C'est quand même bizarre que ces disciples qui vivent 24 heures sur 24 avec Jésus, qui ont assisté à tant d'événements miraculeux, et qu'ils ont assisté à tellement de choses extraordinaires que Jésus faisait, que là ils sont complètement dépassés et qu'ils sont complètement dubitatifs de dire quelque chose, de dire « Mais Seigneur, interviens, tu es la puissance même !» Il nous a dit, un autre de ses disciples, André, le frère de Simon, lui dit « Il y a ici un garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour un si grand nombre de personnes ?» C'est vrai, c'est complètement ridicule. 5 pains d'orge et 2 poissons pour 5000 hommes affamés. Peut-être, Seigneur, je vais faire avancer le schmilblick en disant ça, mais voilà, il y a un gamin qui est ici avec 5 pains d'orge et 2 poissons. Ne sommes-nous pas comme André ? Il y a une opportunité qui s'ouvre à nous de témoignage. Combien d'occasions ratons-nous ? Parfois, il y a juste un petit quelque chose qui pourrait servir de nourriture. Nous prions afin que Dieu nous envoie des âmes. Et il y a parfois, Dieu met des petites occasions, un mot lâché dans une conversation, nous ouvrons une porte pour témoigner, et nous la refermons. Une occasion de glisser un mot d'encouragement, les inviter à une de nos réunions. Mais cela ne semble pas possible. On referme cette opportunité, et la nourriture spirituelle qui est à notre disposition est gâchée pour cette personne. Peut-être à tout jamais, l'occasion que cette personne aurait d'entendre l'Évangile, peut-être c'était là l'unique et dernière fois que l'occasion se présentait, et nous refermons, nous ne nourrissons pas avec nos 5 pains, nos 2 poissons, cette personne. Que d'occasions manquées, frères et sœurs, de notre part, que d'âmes avides de paix, de joie, de guérison, que nous laissons sur le bord du chemin affamés. Affamés de spiritualité. Parce que malgré tout, le monde recherche une certaine spiritualité, que ne le veuillons pas. Remettons-nous en question, frères et sœurs. Saisissons toutes les occasions qui nous sont présentées, que Dieu permet et que Dieu met sur notre chemin. Oui, André, tu as une idée géniale. Ce petit garçon est vraiment un envoyé de Dieu. On pourrait répondre... Ah, André, mais non, tu rigoles, André. Et 5 pains, 5, je veux dire, 5 et 2 poissons. Qu'est-ce que tu veux ? Tu t'imagines, André ? Allez, tu as vu le nombre de personnes ici ? 5 000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Allez, il y avait peut-être 8 à 10 000 personnes. Hein, parce qu'ils avaient souvent 2 femmes. Donc, les pauvres. Et autant de personnes à nourrir. Non, mais ça va bien la tête, André. Allez, là. Et Jésus parle à l'enfant, donne-moi tes pains et tes poissons, parce que bon, Jésus a été le trouver. Nous allons manger, nous tous, avec ta collation que tu as apportée. Et imaginez un instant que l'enfant lui dise, mais Jésus, c'est ma maman qui m'a donné 5 pains et 2 poissons, c'est pour moi. Ben oui, c'était à lui que tout compte fait. Et les autres n'ont rien à manger, ben tirent leur plat. Hein, moi, ma maman m'a préparé mon goûter, je le garde pour moi. Eh bien, je ne sais pas ce qui se serait passé. Imaginons un instant. Ça nous fait penser à nous-mêmes. Si Jésus nous dit, donne-moi tes... Les 5 pains et 2 poissons que tu as. Non, Seigneur, je le garde pour moi. C'est ma bénédiction en moi. Ce n'est pas pour les autres. Répondons chacun pour nous-mêmes si le Seigneur nous demande de donner ce qu'il y a dans notre panier et de le partager. Le Seigneur aujourd'hui s'adresse à nous en nous disant, qu'as-tu dans ton panier ? Oh Seigneur, j'ai pas grand-chose. Hein. J'ai 5 pains et 2 poissons. C'est peut-être un peu de connaissance biblique. Dans mon panier, il y a un peu de foi. Surtout une grande timidité. Pas grand-chose, Seigneur, à t'offrir. Pas grand-chose face à ce monde qui se perd. Pas grand-chose pour la misère qui nous entoure. Pas grand-chose pour la souffrance de ce monde. Seigneur, j'ai rien à t'offrir. Et Jésus nous dit, donne-moi cela. Tu vas voir ce que je peux faire si tu veux me faire confiance. Je peux multiplier cela. Je peux te donner l'intelligence afin que tu puisses répondre chaque fois qu'on te posera des questions pour t'attaquer sur ta foi. Je t'inspirerai. Je multiplierai la puissance afin que ton message porte du fruit et nourrisse cette foule affamée. Rappelez-vous de Gédéon quand Dieu appelle Gédéon. Le peuple était dans le désarroi. Il était attaqué par Madian. Les récoltes étaient ravagées et tout ça. Et Dieu s'adresse au plus courageux de tout Israël, Gédéon. Alors Gédéon, quand il entend que Dieu l'appelle, il lui donne toutes ses qualités. Seigneur, je suis le plus petit, je suis le plus maigrichon. Seigneur, ma famille est la plus pauvre. Enfin, il ne se trouve aucune qualité, il se trouve vraiment misérable. Et Dieu choisit Gédéon. Voilà, c'est toi. C'est toi qui vas délivrer Israël. Mais Dieu lui donne une parole extraordinaire. Il lui dit, va avec la force que tu as et délivre Israël de l'oppression de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie ? Ce matin, Dieu nous envoie chacun, personnellement, nourrir ce monde. Et c'est vrai que nous allons répondre comme Gédéon. Je ne pense pas, à part quelques vantards qui se sentent hyper spirituels, mais si nous voulons être honnêtes, nous allons dire comme Gédéon, « Seigneur, c'est moi que tu choisis, et franchement, je suis moins que rien. Hein. » Mais Seigneur, nous adresse ces paroles afin que nous vainquions nos peurs, afin que nous vainquions nos timidités, afin que nous vainquions ces appréhensions. Dieu désire que nous nourrissions ce monde qui a tant besoin d'entendre un message de délivrance, un message de paix, un message puissant dans ce monde troublé et ravagé. Le monde a besoin d'entendre un message d'amour et non pas de haine, un message d'espérance. Quelle espérance ont-ils ? Nos concitoyens, quand nous voyons comment tout cela tourne autour de nous, que ce soit le climat, que ce soit la situation mondiale économique, quelle espérance ont-ils ? Ils ont besoin d'être rétablis. Pour la plupart de nous, Dieu a utilisé des personnes qui nous ont amenés à l'Évangile. Moi, je suis né, j'ai baigné dedans, mais mes parents ont rencontré quelqu'un qui leur a témoigné, et c'est comme ça qu'ils sont venus à la connaissance de l'Évangile. Alors à notre tour de nous laisser modeler par Jésus, offrons-lui nos doutes, doutons de nos doutes, donnons nos compétences à Dieu, et Dieu changera cette nourriture. Il changera tout cela en nourriture spirituelle pour que nous puissions nourrir ce monde. Et dans ce récit, bien sûr, nous trouvons Jésus là, qui est à la barre, le grand timonier à la manœuvre. Jésus, il faut le laisser agir. Et quand il transforme notre presque rien, nos 5 pains et nos 2 poissons en nourriture, alors là, notre rôle et de la distribuer autour de nous. Non pas de la garder pour nous et de nous en faire une indigestion spirituelle, comme certains font, ils sont remplis de connaissances que leur tête va éclater, mais s'ils nous donnent la possibilité d'avoir autant de connaissances, c'est pour que nous puissions la communiquer aux autres. Notre rôle, frères et sœurs, est de nourrir les autres. Jésus a opéré ce miracle. Et ce n'est pas lui qui a distribué la nourriture, ce sont ses disciples. Ce sont ses disciples qui ont nourri cette foule. Frères et sœurs, Jésus ne fera pas le travail à notre place. C'est notre rôle de transmettre la nourriture à cette foule. Et nous voyons que cette foule fut rassasiée. Cette foule a mangé à sa faim grâce à 5 pains et 2 poissons. Notre rôle, frères et sœurs, est de nourrir cette foule. Avec le petit rien que nous avons, Dieu le multipliera. Soyons-en certains. Mais, ça c'est un point d'interrogation, avons-nous le désir de le faire? Telle est la question. Avons-nous le désir de le faire? Voulons-nous donner les 5 pains, les 2 poissons qui sont dans notre panier, afin que Jésus les multiplie? Que nous soyons les nourriciers de ce monde, les nourrir de cette parole vivante et libératrice qu'est l'Évangile. Ce matin, cette question, je vous la transmets, je me la transmets. Cette question est dans notre camp. Qu'allons-nous faire ce matin? Garder les 5 pains et les 2 poissons et nous nourrir nous-mêmes de cette parole tous les jours. Seigneur, merci pour ta parole, tu me fais du bien. Ah, que je suis rempli de connaissances. Ou alors, nous allons la distribuer, la partager. Et si nous gardons cette nourriture, ben cette nourriture va pourrir. Hein. Comme la manne, quand on voulait en prendre plus, elle pourrissait. Alors, ne laissons pas pourrir cette parole si précieuse. Elle ne servirait à personne. Frères et sœurs, ce matin, réfléchissons bien à notre attitude. Voulons-nous partager 5 pains et 2 poissons avec nos contemporains. Amen. Seigneur notre Dieu, tu es le Dieu du miracle, tu es le Dieu tout-puissant, et tu transmets cette puissance à ton Église. Et malheureusement, Seigneur, nous avons gâché cette puissance qui était là, Seigneur. Et le monde se tourne vers des citernes crevassées. Ô Seigneur, pardonne ton Église d'avoir été souvent incompétente, lente, à se mettre en route. Ce matin, Seigneur, que ce message que tu nous transmets, nous puissions le partager, que tu puisses multiplier tes bénédictions sur ce monde. Amen.